Samedi 12 octobre, 4h en temps universel, 2h de plus ici à Paris, vous êtes toujours sur la Radio du Monde. Et Gaëtan Plenet avec vous pour une demi-heure d'infos internationales. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord, de nouveaux casques bleus de la Finul blessés hier dans le sud du Liban.
Un deuxième incident du genre en 48 heures, Israël pointé du doigt. La force intérimaire des Nations Unies dénonce le risque qui pèse sur ses soldats. Remerciements et gratitude de la France cité hier dans le discours du roi marocain Mohamed VI lors de l'ouverture de la session parlementaire d'automne. Il dit se réjouir du soutien français à la marocanité du Sahara. Dans ce journal également, les États-Unis, pays occupé par des migrants selon Donald Trump. Et puis le début aujourd'hui en France des journées nationales des réservistes pour mettre en lumière celles et ceux qui donnent de leur temps dans les rangs de la garde nationale. Les habitants du nord d'Israël vivant près de sites militaires appelés par le Hezbollah à s'en éloigner pour préserver leur vie, dit le mouvement chiite libanais, qui affirme que l'armée israélienne se sert de maisons dans des zones résidentielles comme centre de rassemblement, à Haïfa notamment. Un appel à partir qui ressemble fort aux prémices de nouvelles frappes, même si l'émissaire américain dit travailler sans relâche pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. On en est loin pour l'instant et la Finul était à nouveau hier l'une des victimes collatérales de ces affrontements. Comme la veille, deux soldats de la force intérimaire des Nations Unies ont été blessés après des explosions dans leur quartier général à Ras al-Nakoura dans le sud du Liban. L'armée israélienne affirme avoir tiré en direction d'une menace près d'une position de la force et d'y mener un examen approfondi pour établir les détails de ce qui s'est passé. Ça n'en demeure pas moins le deuxième incident du genre en deux jours, 4 blessés au total. Jean-Pierre Lacroix est le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Il affirme que ces hommes poursuivent l'exécution de leur mandat, pour l'instant en tout cas.
Bien sûr, les casques bleus sont beaucoup plus limités dans leur capacité à remplir leur mandat aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire. Et il y a eu, y compris depuis le début des opérations au sol, des convois qui ont été organisés par la Finul pour faciliter l'aide humanitaire aux populations qui restent dans la zone et aussi pour permettre à certains civils de quitter la zone. Ce qu'il faut dire également, c'est que si nous abandonnions ces positions, elles seraient probablement occupées par d'autres et c'est quelque chose que nous ne voulons pas. Ce serait d'abord dangereux pour l'image, la réputation des Nations Unies, pour la neutralité, l'impartialité de la force. Évidemment, nous regardons en permanence comment évolue la situation et si jamais elle évolue dans un sens très négatif et très dangereux pour nos casques bleus, au moins dans certaines zones, il faudrait que nous prenions des mesures. Nous avons d'ailleurs des plans pour tous les scénarios.
Des propos recueillis par Jérémy Lanche. Et ce nouvel incident provoque évidemment un nouveau tollé international. Les 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur profonde inquiétude. Les tirs contre les casques bleus ne sont pas acceptables, déclare la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni. Le Royaume-Uni se dit consterné. Condamnation aussi par la voix du président français Emmanuel Macron.
Avec les premiers ministres italiens et espagnols qui représentent comme la France des contributeurs historiques à la Finul, je veux dire ici que les 700 soldats français engagés dans cette force sont le signe de notre soutien indéfectible et de notre volonté d'être engagés à la sécurité tout à la fois d'Israël et du Liban. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la Finul visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Et je remercie les collègues dans Semaine 9 d'avoir eu une parole très claire à nos côtés sur ce sujet.
Le président français qui s'exprimait depuis Chypre en marge d'un sommet de dirigeants des pays méditerranéens de l'Union européenne. Et il a aussi estimé que l'unique levier capable de mettre fin au conflit en cours au Liban comme à Gaza était de cesser les exportations d'armes utilisées sur ces théâtres de guerre. Ce n'est en aucun cas, s'est-il défendu, un appel à désarmer Israël. La défense civile de Gaza annonce, elle, la mort de 30 personnes hier dans une série de frappes israéliennes sur l'enclave. Des enfants parmi les victimes, notamment à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Il est 6h04 à Paris et pas de changement au bulletin pour la France. 17 sur 20, ou plutôt double A moins, verdict attribué par l'agence de notation Fitch, qui rajoute quand même cette fois une perspective négative. Sa prochaine note pourrait donc être dégradée. Pour Fitch, les déficits budgétaires du pays s'annoncent plus importants et l'agence doute des capacités de Paris à réduire son déficit sous la barre des des 5% du PIB l'an prochain, 3% en 2029. C'est pourtant là l'objectif du projet de budget 2025 présenté jeudi par le gouvernement français. La France qui s'est invitée hier dans le discours du roi du Maroc, Mohamed VI, qui présidait l'ouverture de la session parlementaire d'automne. Face aux membres des deux chambres du Parlement, le souverain est revenu longuement sur la question du Sahara occidental et il a salué notamment le discours, dans son discours, la position de Paris, alors qu'Emmanuel Macron sera en visite d'État dans le Royaume à la fin du mois. À Rabat, Mathias Reynal.
Instant solennel, en tenue traditionnelle, face à une assistance silencieuse, le souverain marocain annonce en préambule l'objectif de sa prise de parole. Il va évoquer les derniers développements de l'affaire du Sahara marocain, dit-il.
J'exprime en mon nom personnel et au nom du peuple marocain mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à la France et à son Excellence le Président Emmanuel Macron pour ce soutien franc à la marocanité du Sahara.
Applaudissements des parlementaires. Dans une lettre envoyée au souverain au mois de juillet, le président français a apporté l'appui de la France au plan d'autonomie proposé par Rabat. Le Sahara, qui est, insiste le souverain, la première cause nationale des Marocains.
La position française s'inscrit dans l'esprit de la dynamique positive que connaît l'affaire du Sahara marocain. Nous avons réussi à obtenir la reconnaissance de pays influents, également membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme les États-Unis et la France.
À la faveur du récent réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, Emmanuel Macron effectuera une visite d'État au Maroc à la fin du mois. Mathias Reynal, de retour de Rabat. RFI.
600 policiers kényans supplémentaires bientôt déployés en Haïti pour renforcer la mission multinationale de soutien à la sécurité pilotée par Nairobi. Promesse faite hier par le président kényan William Ruto qui affirme que ces policiers sont en train de terminer leur formation. Il recevait hier le premier ministre haïtien Gary Conny pour qui le déploiement de cette force est trop lent pour permettre de ramener le calme dans son pays ravagé par les violences de gangs. Le 5 novembre prochain sera le jour de la libération de l'Amérique, prédit Donald Trump. Ce sera surtout le jour de l'élection présidentielle aux États-Unis et s'il l'emporte, l'ex-président et candidat républicain promet du changement en termes de politique migratoire dans un pays qu'il décrit comme occupé. Il était très virulent à ce sujet hier lors de son meeting dans le Colorado à Aurora, une ville selon lui submergée par des gangs de migrants vénézuéliens. Correspondance de David Thompson.
Si Donald Trump a choisi la ville d'Aurora pour parler immigration, c'est en raison d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux conservateurs. Il s'agit d'images de surveillance montrant des membres présumés d'un gang vénézuélien en train d'abattre le propriétaire de plusieurs appartements logeant des migrants dans cette ville de 400 000 habitants dans la banlieue de Denver. Depuis ce fait divers, Donald Trump fait d'Aurora la démonstration de sa rhétorique apocalyptique anti-migrants selon laquelle le Venezuela viderait ses prisons pour envoyer ses criminels aux États-Unis. En meeting dans cette ville, le candidat républicain promet donc de lancer, s'il est élu en novembre, une vaste opération anti-migrants baptisée Aurora, justement, destinée, selon ses mots, à libérer l'Amérique occupée avec des méthodes plus que musclées.
Je demande ici la peine de mort pour tout migrant qui tuerait un citoyen américain ou un agent des forces de l'ordre. Cet ennemi de l'intérieur, toute cette racaille à laquelle nous devons faire face et qui déteste notre pays, c'est un plus grand ennemi que la Chine ou la Russie.
Donald Trump promet aussi 10 ans de prison pour les migrants qui reviendraient aux États-Unis illégalement après en avoir été expulsés. Il accuse aussi sa rivale démocrate d'être une criminelle, car Kamala Harris, selon lui, aurait importé une armée de criminels du tiers-monde. David Thompson, Miami RFI.
Aux États-Unis, toujours un premier bilan matériel après le passage de l'ouragan Milton en Floride. Environ 50 milliards de dollars de dégâts selon le président Joe Biden. Pour ce qui est du bilan humain, la chaîne CNN parle de moins 17 morts. Élections législatives demain en Lituanie, les électeurs aux urnes pour ceux qui ne se sont pas encore prononcés puisqu'ils sont déjà à 7% à avoir voté par anticipation au terme d'une campagne où les questions de société ont dominé les débats. Reportage de Marielle Vituro.
Sur la grande place Lukiško de Vilnius, quelques containers ont été installés. Des bureaux de vote pour les électeurs qui ne seront pas disponibles dimanche. La question du pouvoir d'achat et de l'équité sociale revient sur toutes les lèvres. célèbre. Christopas est étudiant en histoire.
Beaucoup de jeunes gens voudraient devenir professeurs, mais les salaires sont trop bas. C'est la même chose pour les docteurs et les policiers. Il en manque.
Gediminas n'est pas concerné, mais il s'inquiète pour les personnes âgées.
Le plus douloureux pour moi est de voir que les retraités ont du mal à payer les charges de leur appartement, surtout dans les villes. Ils ne peuvent même pas acheter de médicaments.
La retraite moyenne en Lituanie est de 600 euros, inférieure au salaire minimum. L'économie lituanienne se porte bien, 3,1% de croissance prévue en 2025. AST travaille dans la finance, le conflit en Ukraine reste dans un coin de sa tête.
La guerre, justement, devrait tous nous mobiliser dans le pays et nous forcer à prendre les décisions qu'il faut le plus rapidement possible.
La question migratoire va rapidement s'inviter dans les débats au Parlement. 200 000 étrangers vivent en Lituanie, soit 7% de la population. Pour certains, il s'agit d'une menace pour la sécurité nationale. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Et puis le début aujourd'hui en France des journées nationales des réservistes, censées permettre de faire connaître la garde nationale. Elle compte plus de 80 000 réservistes qui donnent une partie de leur temps à la nation. Frédéric Genot.
Faire connaître un organe fédérateur tel que la garde nationale, c'est l'une des ambitions du général François-Xavier Poibeau.
C'est important de parler de la garde nationale parce qu'aujourd'hui, c'est le trait d'union entre le monde civil et le monde militaire et ça va permettre d'accroître la résilience nationale.
Après le choc des attentats de 2015 et 2016, l'objectif était de favoriser la cohésion nationale. Depuis la guerre en Ukraine, les autorités militaires françaises cherchent à anticiper toutes sortes de situations de crise. Les réservistes ont de 17 à 72 ans. Ce ne sont pas forcément des sportifs. Ainsi, les experts en cybersécurité sont recherchés. La générale Karine Lejeune.
C'est à nous d'aller chercher ces pépites, là où elles sont, dans les universités, les grandes écoles, dans les entreprises spécialisées. On a des geeks aussi que l'on va recruter.
Les réservistes ont longtemps été dans l'ombre. Les conventions signées avec 1100 entreprises permettent de créer une dynamique, de ne plus limiter les jours de service aux week-ends ou aux vacances. La tâche de Françoise Dumas, conseillère auprès de la garde nationale, c'est de doubler les effectifs d'ici 2030.
C'est pas l'argent qui va le motiver, mais c'est l'envie de faire et de diversifier. Ses missions.
L'été dernier, 10 000 membres de la garde nationale ont contribué au succès des Jeux Olympiques.
Les Jeux Olympiques de Paris, où il est 6h12, 2 heures de moins en temps universel. Le retour de l'information africaine, c'est dans une petite vingtaine de minutes. Mais d'abord, comme chaque samedi, l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics, c'est l'accent des autres, présenté par Olivier Nederland de la RTBF.
L'accent des autres. Avec les médias francophones publics.
Les médias francophones publics vous proposent quelques faits saillants de l'actualité de la semaine. On va commencer aujourd'hui en Belgique avec des élections locales ce dimanche. Après les élections fédérales, régionales et européennes de juin dernier, les Belges votent à nouveau. Jacques Remers pour élire les conseillers communaux et provinciaux.
Oui, plus de 13 000 conseillers communaux sont à élire dans 581 communes, sans compter les conseillers provinciaux. Des élections locales, le niveau de pouvoir le plus proche des citoyens, mais la participation sera-t-elle au rendez-vous ? C'est l'un des nombreux enjeux de ces élections.
En Suisse, les victimes de violences domestiques devraient pouvoir obtenir de l'aide 24 heures sur 24 partout dans le pays. Pierre Anchoffat.
L'offre dans les cantons est très disparate. Le gouvernement veut donc harmoniser les pratiques et garantir une prise en charge professionnelle jusqu'à l'établissement d'un constat médico-légal.
Il est désormais interdit d'interdire le port des signes religieux dans les écoles. C'est une décision, Nicolas Sûr, qui vient d'être prise au Sénégal.
Le ministère de l'Éducation nationale a publié un arrêté imposant aux établissements scolaires de les accepter.
Les gendarmeries françaises ne paient plus leur loyer. En tout cas, dans certains départements, les caisses sont vides et du coup, les communes se retrouvent en difficulté. Nous serons dans les Pyrénées-Orientales. Enfin, le gouvernement du Québec demande d'être impliqué dans le débat sur l'avenir de Radio-Canada. Nadim Obarak.
C'est ce que recommande un rapport dont nous avons obtenu copie.
Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans l'accent des autres. On vote donc à nouveau ce dimanche en Belgique des élections locales après le scrutin à la fois régional, fédéral et européen de juin dernier. Cette fois, il s'agit de renouveler les conseils communaux et provinciaux. Et l'un des enjeux, Jacques, c'est la participation.
Et premier axe pour apprécier et mesurer cette participation, celui de l'accomplissement du devoir électoral. En Belgique, la règle, la loi, c'est le vote obligatoire. Mais de scrutin en scrutin, un grand nombre de citoyens boudent les urnes. Aux dernières élections élection du 9 juin, le record d'abstention a été battu avec 12,5% du corps électoral. On peut espérer une participation plus forte au communal, où les enjeux et les candidats sont plus proches des électeurs. Mais pour ce 13 octobre, si le vote est donc obligatoire à Bruxelles et en Wallonie, pour la première fois, il ne l'est plus en Flandre. On verra comment ce changement peut influencer les résultats.
Alors, deuxième manière, Jacques, de mesurer cette participation, c'est celle des citoyens dans l'organisation, cette fois des élections. Dans de nombreuses circonscriptions, on cherche des assesseurs.
Oui, les assesseurs, ce sont des personnes qui assurent le bon fonctionnement des bureaux de vote sous la responsabilité d'un ou d'une présidente de bureau, mais beaucoup rechignent à remplir cet autre devoir citoyen, comme en témoigne cette juge de paix.
Des gens qui sont comme par hasard partis en vacances ce week-end-là, des gens qui ont réservé un séjour annulable jusqu'au vendredi. En juin, peut-être que c'est parce que ce sont des élections fédérales, peut-être que les élections communales y seront plus motivées. Mais manifestement, ce n'est pas le cas.
On l'entend, les excuses sont multiples, pas toujours valables, et les absences non autorisées, sanctionnées ou sanctionnables par une amende de 250 euros. Dimanche, le fonctionnement de certains bureaux pourrait s'en trouver perturbé, retardé, et certains électeurs pourraient être réquisitionnés.
Et puis enfin, Jacques, on sera également attentif ce dimanche au vote des étrangers.
Les étrangers européens comme non européens peuvent en effet voter aux élections communales, mais ce dimanche 13 octobre, seuls 15% des électeurs étrangers potentiels iront voter. Ces électeurs doivent en effet s'inscrire sur les listes au moins 90 jours avant les élections, un délai particulièrement long qui explique en partie cette faible participation.
Oui, en plus d'un désintérêt un peu général pour la chose démocratique. En Suisse, cette fois, les victimes de violences domestiques ne sont aujourd'hui pas assez prises en charge. Le gouvernement veut du coup renforcer la loi sur l'aide aux victimes, Pierron.
Oui, car le phénomène reste préoccupant. Les statistiques policières font état de près de 20 000 cas de violences domestiques par année. Et toutes les deux semaines, une femme meurt suite aux violences d'un homme. Pour le conseiller fédéral en charge de la justice, Beat Jans, il est plus que temps de fournir des prestations 24 heures sur 24 partout en Suisse.
Toutes les victimes des crimes sexualisés domestiques doivent avoir une place, une unité quelque part, où on a le personnel spécialisé pour leur aider.
Car aujourd'hui, seuls 4 cantons sur 26 proposent une structure professionnelle à même de prendre en charge de manière rapide les victimes de violences, de leur prodiguer des soins d'urgence, mais aussi de réunir des preuves des violences subies grâce à un examen médico-légal.
Des preuves, Pierron, en vue de plainte au pénal.
Exactement, une prestation efficace selon la socialiste Tamara Funiciello. Cette offre existe déjà dans le canton de Vaud, mais pas à Zurich.
Dans le canton de Vaud, on a eu beaucoup plus des condamnations que dans le canton de Zurich. 60% des cas qui ont été portés devant le juge dans le canton de Vaud ont été condamnés. Dans le canton de Zurich, c'était 7%. Donc il y a vraiment une différence éclatante.
Et des voix s'élèvent déjà pour aller plus loin avec une forme de guichet unique comme en Belgique. Camille Perrier de Peursin est professeur de droit pénal à l'Université de Lausanne.
C'est ça qui est difficile, en fait. C'est à chaque fois devoir ramasser son courage, essayer de choisir un spécialiste, faire le téléphone, expliquer la problématique pour qu'on puisse obtenir les soins et puis l'aide adéquate. Alors, les compétences existent chez nous, mais elles sont éparpillées. Ça serait sans doute plus facile si on arrivait à les rassembler.
Le Parlement devra déjà franchir cette première étape afin que les victimes aient un accès simplifié aux structures d'aide où qu'elles habitent en Suisse.
L'accent des autres.
Au Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier un arrêté sur le respect des croyances religieuses. Le texte impose à l'ensemble des écoles, publiques et privées, d'accepter le port de signes religieux comme le voile, la croix ou les perles sacrées des religions traditionnelles. Et cela tant que ça ne nuit pas à l'identification de l'élève. Cette décision, Nicolas, elle intervient après que le Premier ministre ait relancé le débat sur le foulard islamique en milieu scolaire, c'était en juillet dernier.
Oui, après une cérémonie récompensant les meilleurs élèves du Sénégal, Ousmane Sonko avait affirmé qu'on ne pourrait plus interdire le port du voile dans les écoles et qu'un arrêté était nécessaire. Les cas de refus d'entrée des élèves dans les établissements pour port de signes religieux sont rares. Aucun n'avait été signalé depuis 2019. Cependant, le 8 octobre, une élève a dû enlever son voile pour pouvoir participer aux cours dans son établissement catholique. Cet arrêté vise donc à clarifier un vide juridique. Jusqu'ici, rien n'était stipulé concernant le port des signes religieux au niveau national. Il réaffirme également, selon le ministère de l'Éducation, les valeurs du vivre ensemble.
Oui, cela dit, l'arrêté touche un sujet sensible, celui de la coexistence des différentes communautés religieuses au Sénégal. Elle est, Nicolas, jusqu'ici harmonieuse.
Oui, les propos d'Ousmane Sonko avaient déjà suscité une vive polémique fin juillet. Les établissements catholiques privés s'étant insurgés contre le fait de se concentrer sur le port du voile plutôt que sur la qualité de l'enseignement. Cet arrêté était-il vraiment nécessaire au regard du peu de problèmes que pose le port des signes religieux dans les écoles? Du côté du syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, on regrette que ce texte ait été adopté sans véritable consultation et consensus entre tous les acteurs de l'éducation nationale, ainsi que les établissements catholiques privés.
Où est le devoir d'exemplarité de l'État? La question s'est posée cette semaine en France, parce qu'en raison d'un important trou dans les caisses, la gendarmerie n'est plus en mesure de payer ses loyers dans plusieurs départements, et notamment dans les Pyrénées-Orientales. Conséquence, des centaines de communes se retrouvent en difficulté parce qu'elles s'endettent souvent pour financer la construction des casernes. Il y aurait un trou de 200 millions d'euros dans le budget 2024 de la gendarmerie. Une loi de finances rectificative serait en préparation par le nouveau gouvernement, mais en attendant qu'elle soit votée d'ici la fin de l'année, les loyers ne pourront pas être versés. Reportage de François David.
On a vu des locataires se faire expulser pour beaucoup moins que ça. À Cabestany, près de Perpignan, les gendarmes occupent une caserne construite et entretenue par la mairie et ça fait 9 mois que le loyer n'est plus payé, ni les taxes d'ordures ménagères.
À l'heure actuelle, c'est à peu près 300 000 euros qui manquent.
Cyril Bernardin est le premier adjoint en charge des finances et il ne sait pas comment il va pouvoir boucler son budget 2024, sauf à augmenter les impôts.
Ce seraient donc les habitants qui auraient à subir le fait que l'État n'honore plus sa redevance.
Cette situation n'est pas un cas isolé. Edmond Jorda, président de l'Association des maires des Pyrénées-Orientales, a été alerté par plusieurs de ses collègues inquiets.
Les communes qui se sont endettées pour pouvoir construire les murs de la gendarmerie et qui se servent des loyers pour pouvoir payer les annuités d'emprunt. Et là, on peut vraiment, vraiment mettre à mal les communes.
Face à l'inquiétude grandissante, la sénatrice LR des Pyrénées-Orientales, Lauriane Josende, a sollicité le ministère de l'Intérieur. La réponse qui lui a été faite, eh bien, 200 millions d'euros qui étaient prévus pour payer les loyers de la gendarmerie auraient été dépensés autrement.
En raison de circonstances d'urgence, notamment les événements en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on se rend bien compte que toute situation exceptionnelle met à mal les finances de l'État.
Une loi de finances rectificative serait à l'étude par le nouveau gouvernement pour régulariser la situation, mais pas avant la fin de l'année.
Reportage de François David pour France Bleu Roussillon. Le nouveau ministre de l'Intérieur assure que c'est son prédécesseur qui a donné l'ordre de ne pas payer les loyers de certaines gendarmeries. Ce trou dans les caisses s'expliquerait notamment par la tenue des JO à Paris et par les récents problèmes en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le Québec veut s'impliquer dans une réflexion liée au monde des médias. Elle a été entamée cette année par le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral. Une réflexion, n'a dit, relative à l'avenir de Radio-Canada.
C'est ce que recommande un rapport remis en juin au ministre de la Culture et des Communications du Québec, dont nous avons obtenu copie. En mai dernier, la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, a mis sur pied un comité pour la conseiller sur la redéfinition du mandat de CBC Radio-Canada. Eh bien, le rapport souligne que Québec doit exiger de participer à ces débats à titre de meilleur juge de l'état de la culture et de la langue française sur son territoire. Le rapport note par ailleurs une centralisation du pouvoir décisionnel au siège social de CBC Radio-Canada. On peut lire aussi que pour protéger la langue française et la culture québécoise, le diffuseur public devrait revoir une partie de sa gouvernance. Québec est donc invité dans le rapport à revendiquer le droit de nommer au moins 3 membres du conseil d'administration de la société d'État.
Et donc, Nadi, le gouvernement du Québec veut aller de l'avant avec ses recommandations.
Oui, d'ailleurs, le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, a transmis ce document à Ottawa pour s'assurer que la voix du Québec soit entendue. Il dit craindre que les services français dans une refonte du mandat du diffuseur public soient menacés au profit des services anglais.
Je souhaite qu'on fasse partie de la solution parce que, je le répète, mais pour le Québec, c'est un outil culturel trop important pour qu'on reste sur les lignes de côté. Je sais qu'on va se faire répondre que c'est pas notre travail de faire ça. Je sais qu'on va se faire répondre que Radio-Canada, ça relève du gouvernement fédéral. Mais si on a été capable de s'entendre sur des nominations à la Cour suprême du Canada, moi, je pense qu'on est capable de s'entendre pour des nominations au conseil d'administration de Radio-Canada.
Le ministre Mathieu Lacombe.
Et comment réagit Ottawa à la démarche de Québec?
La ministre du patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, a répondu ainsi au ministre Lacombe.
Je voudrais rassurer Mathieu Lacombe, parce que c'est pas Ottawa qui revoit le mandat du ministre Radio-Canada, c'est une Québécoise qui était au front en 2012 et 2015 pour décrier les coupures du gouvernement Harper de 115 millions qui ont vraiment menacé et fragilisé le diffuseur public partout à travers le Canada. Donc, je comprends très bien l'importance de Radio-Canada pour les Québécois, pour la langue française, puis c'est ça que j'ai en tête quand je réfléchis à l'avenir de notre diffuseur public.
La ministre Saint-Onge devrait annoncer prochainement des changements visant à moderniser CBC Radio-Canada.
Nadie Mobarak, pour refermer ce rendez-vous des médias francophones publics, merci d'avoir été là. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure avec la Radio-Télévision Suisse, avec RFI, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. À très bientôt.
Là, c'était Olivier Néderlante de la RTBF, 6h25 à Paris. À 23 ans après sa création, le réseau Flamme pour français langue maternelle tient sa première réunion mondiale ce week-end à Paris. Un réseau qui propose des cours de français aux enfants et aux adolescents âgés de 3 à 18 ans, de nationalité française, vivant à l'étranger et non scolarisés en français. Corinne Manjou en parle ce matin dans la chronique Vivre ailleurs avec Anne-Henri Werner. Elle est expatriée en Allemagne et surtout présidente de l'association Flamme Monde.
Ce sont des associations qui proposent des activités autour de la pratique de la langue française, mais la spécificité, c'est que ça s'adresse à des enfants français ou francophones, issus de familles binationales. Ils ont pour la plupart un seul parent dont la langue maternelle est le français. Et donc, de par leurs conditions de vie, ils sont beaucoup plus exposés à la langue du pays. Donc, ils comprennent le français, mais ils ne l'utilisent pas de manière active. Et surtout, ils ne l'utilisent pas avec d'autres enfants, donc leur vocabulaire reste un peu limité. Ce sont des enfants qui sont nés à l'étranger, qui n'ont jamais connu autre chose. Et là, en se retrouvant avec un groupe d'enfants de leur âge, des enseignants français, ils font des activités ludiques, certaines activités plus scolaires. Souvent, c'est un mix des deux. Et petit à petit, ils s'approprient cette langue également comme une langue maternelle.
Comment fonctionnent les associations Flamme?
En général, elles fonctionnent sur une base hebdomadaire. Pour certains, ça va être dans l'après-midi, après l'école. Pour beaucoup, c'est le samedi matin que les enfants se retrouvent donc à un endroit, par groupe d'âge en général, par tranche d'âge ou de niveau, pour pratiquer le français sous diverses formes. Mais les associations sont très, très autonomes.
C'est un réseau mondial avec plusieurs associations et 3 fédérations.
Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, il y a eu des fédérations régionales qui se sont créées. Une au Royaume-Uni et une aux États-Unis. Ce sont d'ailleurs les régions où il y a le plus d'associations Flamme. Et ces dernières années, pendant la période Covid, d'ailleurs, c'est là que ça a été lancé. On a commencé à se parler à l'échelle mondiale. Et de là est née l'idée de créer une fédération mondiale pour renforcer encore ce réseau, se serrer les coudes aussi, et puis surtout faire beaucoup d'échanges d'expériences et voir comment, à la longue, on peut peut-être aussi alléger le travail des associations. Parce que pour la plupart, ça repose sur beaucoup de bénévolat.
Comment se déroule la réunion de l'association Flamme Monde qui se tient à Paris en ce moment et quels en sont les objectifs?
Eh bien, nous sommes en plein dans notre première rencontre mondiale des associations Flamme, organisée par la Fédération Flamme Monde. Nous avons pu faire venir plus de 80 associations. Ça représente à peu près 115 responsables associatifs et aussi des enseignants Flamme du monde entier. Et notre rencontre va durer jusqu'à dimanche en début d'après-midi. Et donc, nous avons commencé hier avec une plénière que nous avons voulu ouverte. Donc, nous avons également reçu à cette plénière des représentants institutionnels du ministère des Affaires étrangères, de l'AEFE.
Alors, je rappelle que l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Voilà, c'est ça. Également des élus des Français de l'étranger. Et puis, voilà, quelques autres invités qui étaient en lien avec les Français de l'étranger.
Quel est le programme de cette réunion?
Nous avons un programme très riche. Nous avons appelé notre rencontre « L'avenir des flammes d'ici 2030 », un petit peu pour nous caler aussi sur les objectifs de développement durable de l'ONU qui propose notamment une éducation de qualité pour tous. C'était un sujet très important pour les flammes qui veulent vraiment être accessibles à tous. Et donc, divers intervenants flammes et des interactions avec le public. Ensuite, nous aurons des ateliers par petits groupes, mais avec la possibilité d'assister à 2 ateliers sur de nombreux sujets que nous avions identifiés en amont de l'événement, donc il y a plus d'un an maintenant. Et demain, dimanche, on passera plutôt à l'aspect pédagogique, puisque nous avons prévu 2 conférences avec des experts extérieurs sur 2 sujets pédagogiques pour faire des projets communs. tout ce qui est en plénière est retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver notre chaîne YouTube sur notre site internet Flamme Monde, donc ça fait 2M finalement, hein, FLA2MONDE.org. Et là, on trouve toutes les informations.
Anne-Henri Werner, présidente de la Fédération Flamme Monde. Elle répondait à Corinne Manjou. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'information. Merci à Mickaël Verne qui l'a réalisé. Merci aussi à Léa Boutin-Rivière et Pierre Pinto qui étaient à la rédaction en chef. Et puis merci à vous d'être fidèles à la Radio du Monde, à suivre le journal Afrique en français. Sauf si vous nous écoutez en Swahili, en Afrique de l'Est. Là, vous avez rendez-vous avec 30 minutes d'information en Swahili.